Gloire à Dieu, nous sommes dans la joie de nous retrouver dans la présence du Seigneur. Et mon exhortation, c'est que nous ayons les cœurs simples, les cœurs ouverts pour écouter la parole de Dieu. Le salut vient du ciel. Les choses les plus importantes viennent d'en haut. J'ai suivi un échange, voilà, quelqu'un racontait une expérience qu'il avait eue avec un homme qui lisait toutes sortes de livres pour connaître la vérité. Sa bibliothèque était remplie, mais il était toujours malheureux parce qu'il ne trouvait pas la vérité. Vous savez, les gens qui cherchent la solution par rapport à l'existence, par rapport à l'avenir de l'homme, tout ça. Et le serviteur de Dieu lui a dit, écoute, tu es comparable à des cochons qui ont trouvé sous un abricotier très mûr. Hein, vous savez, quand un arbre est arrivé à produire des fruits très mûrs, plutôt c'est les fruits qui étaient très mûrs, il est sous un abricotier qui porte des fruits très mûrs. Les fruits finissent par tomber d'eux-mêmes. Alors les cochons, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mangé tous les fruits qui étaient par terre, ben, ensuite, ils voulaient continuer. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à creuser en se disant que ça vient de la terre. Et le prédicateur a dit à cet homme-là, vous cherchez quelque chose qui vient du ciel, mais par terre, sur la terre. Il suffisait à ces cochons-là de donner une grosse secousse à l'arbre, les fruits allaient tomber. Mais ils pensaient, eux, ces cochons, au lieu de regarder au ciel pour chercher la solution, ils pensaient que ça venait de la terre. La solution ne viendra pas de tes raisonnements, ça ne viendra pas des livres de la terre, ça viendra du ciel. Comment veux-tu comprendre Dieu par la puissance de la terre? Dieu est au ciel, il est tout puissant, il remplit l'univers. Si tu veux saisir quelque chose, c'est lui seul qui peut se révéler à toi. Autrement, il serait à ta hauteur. Il n'est pas à ta hauteur, il est du ciel. Et ces cochons-là cherchaient les abricots sous terre alors qu'ils venaient du ciel. Et c'est le conseil que je nous donne à nous tous. La solution vient de Dieu pour tout. Nous lisons, notre titre aujourd'hui, c'est « Le vrai Jésus ». Le vrai Jésus. Et il y a une autre possibilité de titre. De quel Jésus tu parles? Voilà. Le vrai Jésus, ou de quel Jésus tu parles? En quelque sorte, quel est le Jésus en qui tu as cru? Hein? De qui tu parles? De quel Jésus? Voilà. Parce qu'aujourd'hui, il y a toutes sortes d'utilisation du nom de Jésus dans des groupes, dans des sectes, par plusieurs personnes pour se faire de l'argent, pour avoir du succès, pour faire des chants, avoir du succès. Il y a toutes sortes d'usages du nom de Jésus. Mais ce n'est pas toujours le vrai Jésus. Nous voulons que si toi tu crois, si toi tu t'intéresses à quoi que ce soit sur Jésus, que tu t'intéresses au vrai Jésus, qu'il n'y ait pas méprise. C'est ça, le vrai Jésus. Nous lisons une première scène des gens qui s'étaient trompés de Jésus. Lisons Actes 19, 13 à 20.
Quelques exorcistes juifs, ambulants, essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus, en disant, « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche. » Ceux qui faisaient cela étaient sept fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de deux d'entre eux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse. Et la crainte s'empara d'eux tous. et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force.
Et en force. Voilà, il est question d'un certain nombre d'exorcistes. C'est une famille hein, de sept frères, d'un monsieur qui s'appelait Seth. D'ailleurs, Seva, ça veut dire Seth. Et ce monsieur-là, ces gens-là, avaient pour habitude de chasser les esprits. Alors, il se trouve que ils ont vu Paul chasser les esprits avec une grosse facilité. Ils se sont dit, tiens, on va copier les méthodes de Paul. Alors, ils étaient face à un homme possédé. Alors, ils ont dit, il est écrit, ils ont dit, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Je vous chasse. Ils ont dit aux esprits, l'un d'eux a dit aux esprits, je vous chasse au nom de Jésus que Paul prêche. Les esprits, qu'est-ce que les esprits répondent? Les esprits disent, l'esprit malin leur répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Vous êtes dans l'approximation, vous êtes des aventuriers. Il est écrit que l'esprit et l'homme dans lequel était l'esprit malin se lança sur eux, se rendit maître de tous, de tous deux, et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. L'esprit qui était dans l'homme est monté en pression et a attaqué ces hommes. Il les a frappés, ils ont dû fuir. De quel Jésus vous nous parlez? Parce que les gens ont dit à l'esprit, sors de cet homme, par Jésus que Paul prêche. Les esprits disent, mais oui, mais c'est de quel Jésus là? Nous, on connaît le vrai Jésus. On connaît Paul, son serviteur. Mais vous n'avez pas le vrai Jésus. Votre Jésus, c'est du bricolage. C'est une formule. Vous avez le Jésus de la formule. Que l'on voit chez beaucoup d'Africains, dès qu'il y a un problème, dans le vide, ils disent au nom de Jésus. Mais dans le vide, mais ça veut dire quoi? C'est le Jésus de la formule. Leur cœur n'a pas changé, ils ne sont pas convertis, mais ils pensent avoir une baguette magique en utilisant le nom de Jésus. À tout va, et ils considèrent que c'est bon ainsi. Maintenant, ce n'est pas bon. L'Esprit a dit, ça, ce n'est pas le vrai Jésus. Votre Jésus à vous, c'est le Jésus de la formule. C'est ça notre question aujourd'hui. De quel Jésus tu parles quand tu dis que tu crois en Jésus? Quand tu veux faire les choses au nom de Jésus, il s'agit de quel Jésus? Le Jésus de la formule qu'on utilise juste quand ça ne va pas. Le Jésus de la formule qu'on veut utiliser pour certaines affaires ou le véritable Jésus qui réellement change la vie de personne. Parce que vous voyez dans la suite, qu'est-ce qu'il est dit dans la suite? On va lire, frère Ado, au verset 19. Pardon, verset 17, à partir du verset 17.
Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse, et la crainte s'empara d'eux tous, et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait.
Voilà le véritable Jésus. Quand tu crois au véritable Jésus, tu changes de vie. Tu renonces à la vie passée. Ces gens-là avaient pris juste une formule. Jésus. Juste pris une approximation. Les églises sont remplies de chrétiens qui n'ont Jésus que comme formule, qui fonctionnent. Le nombre augmente dans l'église. Un tel a témoigné que sa vie a été changée. Vous savez, les gens préfèrent écouter les témoignages de miracles. Vous savez, quand vous mettez un témoignage de miracle sur YouTube, c'est des milliers de millions de vues. On cherche la formule. C'est le faux Jésus de la formule. Et les démons n'obéissent pas à ce faux Jésus-là. C'est pourquoi beaucoup de gens qui se disent chrétiens, mais ont un tas de problèmes qui ne finit pas parce qu'ils sont dans la formule. Parfois, ils font des rêves, ils chassent les démons dans le rêve au nom de Jésus, les démons ne parlent pas. Dieu veut dire attention, sors de la formule, viens à Jésus totalement, qu'il change ta vie. Le Jésus de la formule, de l'approximation, il ne fait pas de toi un chrétien que les démons vont craindre. Les démons ne craignent que les gens qui sont comme Paul. Parce qu'ils ont dit, l'Esprit a dit à ces gens-là, nous connaissons Jésus, c'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Fils de Dieu. Nous connaissons aussi Paul, son serviteur. Mais vous, vous êtes qui? De quel Jésus vous nous parlez? Désemparés, ils se sont fait frapper comme il faut par l'esprit. Les démons n'obéissent qu'aux gens qui ont cru au véritable Jésus. Des gens qui ont laissé Jésus les transformer. Il y a un passage qu'on n'a pas prévu de lire aujourd'hui, mais que je suis obligé de rappeler dans 1 Corinthiens 15, 1 à 2. L'apôtre Paul explique que si nous n'avons pas retenu l'évangile tel que lui l'a présenté ça, c'est-à-dire l'évangile qui présente Jésus comme celui qui est venu mourir pour nos péchés et qui est ressuscité pour nous donner une nouvelle vie, si on ne présente pas l'évangile comme ça, si nous ne croyons pas en ce Jésus-là tel qu'il est présenté, il dit clairement, on aura cru en vain. En vain. Ça veut dire que tu peux faire 30 ans, 40 ans en vain dans une église. En te disant chrétien, parce que tu n'as pas cru au Jésus, au véritable Jésus. Celui qui est présenté par Paul comme celui qui est mort à la croix pour nos péchés. Donc forcément, quand tu sais que Jésus est mort à la croix pour nos péchés, quand tu viens à lui, c'est pour lui apporter tes péchés. Ce n'est pas pour faire de la collaboration pour avoir du succès. Ce n'est pas pour faire de la religion, apaiser sa conscience, aller dimanche au culte. On se dit, j'ai été dimanche quelque part, prier. Non, le véritable Jésus est venu pour prendre tous tes péchés et te procurer une nouvelle vie qui vient de lui-même. Il devient ta vie. Et Paul dit, si vous n'avez pas cru en ce Jésus-là, vous avez cru alors à un autre. Et cela ne sert à rien. Et nous en voyons la démonstration par ce que ce démon a fait au fils de Séva. Et il les a frappés comme il faut. Parce qu'ils n'avaient pas le véritable Jésus. De quel Jésus tu parles? Lisons. Toujours dans Actes des Apôtres, au chapitre 8, du verset 12 au verset 24. Une autre scène qui montre que quelqu'un s'est trompé encore de Jésus. Ce n'est pas le bon, ce n'est pas le vrai. Vous savez qu'il y a des gens aussi qui s'appellent Jésus hein, ailleurs, hein, mais il est chez les Espagnols. Hein. Et même dans la Bible, il y a un certain monsieur qui s'appelait Bar-Jésus. Il ne faut pas se tromper de Jésus. Il faut choisir le Jésus, fils de Dieu. Dieu qui est venu du ciel, étant Dieu, il est venu en homme pour porter nos péchés à la croix et nous communiquer une nouvelle vie. Le Jésus qui peut donner des ordres à la création, qui peut dire à la tempête, tais-toi et la tempête obéit. C'est lui le véritable Jésus. Ce n'est pas un simple prophète. C'est le Fils de Dieu, le Dieu vivant. C'est ça la différence. C'est en ce Jésus qu'il faut croire. Nous lisons Actes des Apôtres, donc 8, 12 à 24.
Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient.
Voilà, ce Simon-là, parce qu'on va pas tout lire, c'est long. Ce Simon était un grand magicien qui épatait tout le monde jusqu'à l'arrivée de Philippe. Donc quand Philippe vient, c'est là qu'il y a un point final à ses exploits, à son succès, à sa renommée, puisque Philippe, voilà la différence, il vient avec le nom du véritable Jésus, et par le véritable Jésus, il fait des miracles que Simon n'a même pas osé faire une seule fois. Voilà. On ne sait pas en quoi il épatait les gens, mais quand Philippe vient avec la puissance du nom de Jésus, il y a des miracles qui se font, qui dépassent lui-même Simon, et du coup, il capitule. Il dit, moi, je vais suivre plutôt Philippe. Lui, il a une plus grande puissance que moi. Et c'est ce que le texte nous montre quand il dit, il ne quittait plus Philippe et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Donc, il regardait les miracles, il les enviait. Voilà, c'était ça qui l'intéressait parce qu'il a rencontré une puissance plus grande. Lisons la suite, verset 14 jusqu'à la fin.
Verset 14. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, car il n'était pas encore descendu sur eux deux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant, « Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Mais Pierre lui dit, « Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part, ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Réponds-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible. Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Simon répondit, priez vous-même le Seigneur pour moi afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit.
Vous voyez que cet homme, Simon, le magicien, il avait en apparence cru et il s'est même fait baptiser. Mais il avait cru en un faux Jésus. Il avait cru en un Jésus magicien, plus fort que lui. Au fait, lui, il s'est dit que Jésus devait être un magicien plus fort de loin que lui, autant aller vers lui. Donc, il n'avait pas du tout changé de cœur. Il s'est trompé de Jésus. Jésus n'est pas venu pour accorder des pouvoirs aux gens, pour faire une sorte de magie religieuse. Jésus est venu sauver chaque humain. Il est venu donner sa vie afin que chaque humain soit sauvé. Lui, il s'est trompé de Jésus. Comme il a vu Philippe faire des miracles, et puis il voit après les apôtres prier, imposer les mains aux gens, et il y a les manifestations du Saint-Esprit, le parlant langue, la prophétie, bon, on sent une sorte de force qui anime les gens quand ils reçoivent l'imposition des mains. Il se dit, ah, mais c'est ce genre de pouvoir qu'il me faut. Et c'est ainsi qu'il dévoile en réalité le fait qu'il a cru dans le mauvais Jésus. De quel Jésus tu parles quand tu dis que tu es chrétien? C'est de quel Jésus tu parles? Si c'est juste pour des pouvoirs, c'est le faux Jésus, le Jésus magicien. C'est le faux. Le véritable Jésus, ce n'est pas un magicien. C'est le Fils de Dieu. C'est le Dieu vivant. Il est tout puissant pour faire ce qu'il veut. Le magicien, c'est celui qui fait des contrats avec des esprits pour faire des choses. Mais Jésus n'a fait de contrat avec aucun esprit. Il est lui-même Dieu et Fils de Dieu. Et il a reçu l'autorité de son Père pour faire ce qu'il veut. Il dit dans Matthieu 28, 18 à 20, « Tout pouvoir m'a été donné. » Tout pouvoir. C'est ça le véritable Jésus. Tout pouvoir lui a été donné. Et cet homme maintenant a voulu acheter avec l'argent. À partir de là, vous comprenez comment l'argent a corrompu le milieu chrétien. Parce que les gens vont vouloir quoi? Acheter les dons de Dieu. Acheter la force pour prier. Acheter la révélation de la parole. Tout ça vient de la convoitise du cœur. Tout ça vient du fait que les gens n'ont pas cru au vrai Jésus. Celui qui a cru au vrai Jésus, il sait que Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Il sait que Jésus ne peut pas vendre la vie éternelle parce qu'il a déjà, il a donné le plus cher, c'est sa propre vie. Pourquoi il va vendre après? Il a déjà donné gratuitement sa vie. Après, il va vendre des versets bibliques. Après, il va vendre un don spirituel. Les gens ont cru dans le faux Jésus, celui qui distribue des pouvoirs spirituels. C'est faux. Jésus, c'est le Fils de Dieu venu pour mourir à la croix afin que nous ayons la vie éternelle, une vie nouvelle, glorieuse par son Esprit Saint, mais pas comme un échange. Tu viens, tu donnes l'argent, tu reçois un don spirituel. Tu donnes l'argent, on t'apprend à chanter pour Dieu. Est-ce que c'est normal? Tu donnes l'argent pour que, vous savez, il y a même dans des églises où on fait du casting pour recruter les choristes. On fait un casting et le casting, il est payant aussi. Voilà. Ah, dans une église. Vous avez entendu ce que Pierre a dit? Pierre a dit à Simon le magicien, tu t'es trompé de Jésus. Tu es dans les liens de l'iniquité. Le véritable Jésus ne fait pas payer. C'est gratuit avec lui. Tu es dans la malédiction. Simon a dit, ayez pitié de moi. De quel Jésus tu parles? En quel Jésus tu as cru? Celui qui distribue des rôles, des pouvoirs. Celui qui va te permettre de prêcher. Il y a des gens qui sont prêts à donner voiture ou maison pour qu'on les laisse prêcher, pour qu'on les nomme pasteurs. Ils cherchent des pouvoirs. C'est ce qui fait que l'argent est entré dans les milieux chrétiens à fond avec ces faux Jésus-là. Dernièrement, le faux pasteur Labénine était venu en France et il avait combien? 60 t-shirts. Je crois un t-shirt, c'était 100 euros. Et il expliquait du haut de la chair que si tu portes ce t-shirt-là, son onction qui est dans sa vie va venir sur toi. Et il disait, mais attention, il n'y en a que 60. Hein? Je crois qu'il y a les 60. Et les gens qui veulent cette onction-là, courez vite, il n'y a que 60. Les gens ont fait du 100 mètres. Si on pouvait les utiliser comme ça pour faire des entraînements pour après rivaliser avec Usain Bolt, c'est excellent. Ils ont couru pour aller acheter ce t-shirt-là. Le monsieur s'est enrichi comme ça de 6 000 euros facile. Mais tous sont dans le faux Jésus. Que ce soit lui, que ce soit ceux qui achètent. Ils se sont trompés de Jésus. Pierre a dit, il le dit là, il dit, verset 21, il n'y a pour toi, non pardon, verset 20, mais Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Croire qu'il faut de l'argent pour acquérir les choses de Dieu, ça veut dire qu'on n'a pas cru au véritable Jésus. Est-ce que, bien-aimé, vous comprenez? On comprend ça. Ce n'est pas moi qui le dis. Il dit, le fait que tu crois qu'il y a le don de Dieu s'acquiert avec de l'argent, vers conséquence, hein, conséquence verset 21, il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Donc, vous vous rendez compte maintenant du nombre de chrétiens qui sont perdus, hein, qui ont cru dans le faux Jésus. Vous vous rendez compte du nombre qu'on fait chanter en leur disant « il faut pledge, il faut donner quelque chose là, et comme ça, tu auras ça. » Bien-aimés, nous sommes d'accord que la Bible, il est écrit dans la Bible qu'il faut semer pour récolter. Nous sommes d'accord qu'il faut donner à Dieu même. On voit dans les Actes des Apôtres les gens qui étaient vraiment convertis, parce qu'on n'a pas le temps de tout lire, mais quand... les gens qui étaient vraiment convertis au vrai Jésus, qu'est-ce qu'eux, ils ont fait? Sans que qui que ce soit ne leur parle, d'eux-mêmes, ils ont vendu les propriétés qu'ils avaient en plus, peut-être, et ils ont donné l'argent pour l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui leur a demandé, c'est d'eux-mêmes. Au fait, quand quelqu'un est converti, il est branché au ciel. Quand il est converti au vrai Jésus, il est branché au ciel, il n'a plus peur du matériel. Alan Yuan a fait 22 ans en prison, en Chine, à cause de la foi en Christ. 22 ans en prison, en laissant une femme avec 6 enfants. Et vous savez que pendant 22 ans, comment ils ont vécu? Il y a une dame qui venait chaque mois. D'abord, il y a une dame qui est venue au moment où ils n'avaient plus rien à manger. La femme d'Alan Yuan a prié à 6 heures du matin. Elle est sortie de sa prière par quelqu'un qui frappe à la porte. C'est une dame qui lui amène de l'argent pour sa subsistance. Elle dit, mais qui vous êtes? Elle dit, ne me demandez pas mon nom. Prenez seulement l'argent. Plus tard, c'est une jeune fille qui lui amène 3 colis. Un colis pour eux, un colis à donner à un oncle et puis un colis à donner aux pauvres. Mais à chaque fois, c'est des colis solides, financièrement parlant. Et après, c'était chaque mois qu'il recevait un mandat. Et quand elle répondait, « Merci pour l'argent que vous nous avez envoyé. J'aimerais bien vous rencontrer. » La poste lui envoyait une réponse comme quoi l'adresse qui a fait le mandat n'existe pas. Vous voyez le niveau du véritable Jésus. Il peut nourrir du ciel toute une famille de 6 enfants pendant 22 ans, comme il a fait au désert avec la manne. Ça, c'est le véritable Jésus. Quelqu'un qui se convertit à Jésus, il n'a plus peur du matériel. Il sait qu'il est branché au ciel. Jésus, Dieu s'occupe de tout. Parce que là, c'est le véritable Jésus, créateur des cieux et de la terre. C'est pas le Jésus bricoleur de qui donne des pouvoirs, des rôles. Toi, je te mets diacre, tu me donnes ta voiture. Non, ça c'est le Jésus de bricolage, magicien. Le véritable Jésus est au ciel. Il préside depuis là-bas. Il règne sur tout l'univers. Il peut te nourrir directement, pendant 22 ans. Du coup, dans Actes des Apôtres, au chapitre 2 et au chapitre 4, les gens qui étaient vraiment convertis au véritable Jésus ne ressentaient plus la nécessité d'amasser des richesses. Ils considéraient que leur avenir était au ciel, autant contribuer à ce que l'œuvre de Dieu avance pour sauver le maximum et qu'on se retrouve au ciel une fois pour toutes en sécurité, dans la richesse, dans la plénitude de joie totale. Voilà, c'est ça les vraies conversions. Sans que quelqu'un ne leur dise. Aujourd'hui, les fausses conversions, c'est quoi? Les gens, il faut leur dire. Il faut insister. Il faut les manipuler pour qu'ils donnent à Dieu. Mais non, c'est des fausses conversions. Et d'ailleurs, c'est pourquoi la manipulation, ça réussit. Ça réussit. Il faut se convertir au vrai Jésus, au patron de l'univers. Voilà. C'est celui qui n'est pas effrayé par l'argent. Parce qu'il dit dans sa parole, l'or et l'argent lui appartiennent. C'est pas le, vous savez, il y a certains pasteurs qui disent, ah, mais si vous ne donnez pas, l'œuvre de Dieu ne va pas avancer. C'est le faux Jésus. Jésus a dit dans Matthieu 16, tu es Pierre et sur ce roc, je bâtirai mon église. Le vrai Jésus lui-même bâtit son église. Celui qui veut participer, il participe. Celui qui ne veut pas participer, c'est lui qui perd. Parce que quiconque participe est béni. Celui qui ne veut pas, mais Jésus ne va pas te dire, mais si tu ne participes pas, mon œuvre est bloquée, impossible. Il ne peut pas dire cette phrase-là. Donc tous ces pasteurs qui disent cette phrase-là sont en train de présenter un faux Jésus. Une autre scène dans Jean 2, 23, 25. On ne pourra pas tout dire, mais comprenez l'esprit dans lequel nous parlons. Vous-même, vous pourrez prendre des applications sur d'autres textes. Jean 2, 23, 25.
Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous. Et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme.
Voilà, il nous est dit que beaucoup de gens ont cru quand ils ont vu Jésus faire les miracles. Mais Jésus savait que c'était faux. Il connaissait leur cœur. Il ne se fiait pas à eux. Il savait que tout ça, c'est parce qu'ils ont vu les miracles. C'est pourquoi ils me suivent. Bien-aimés, vous croyez que la même parole que je prêche aujourd'hui, qui n'attire pas beaucoup de monde, mais il suffit qu'on apprenne que non, il y a un mort qui est ressuscité pendant qu'on prêchait à 50 mètres là, et puis un aveugle qui a vu là, et puis dans telle maison à côté, il y a eu un sidéen qui est guéri par imposition des mains. Bien aimé, les mêmes phrases, les mêmes choses que nous faisons là, vont attirer une foule. Vous croyez que c'est la vérité qui attirera cette foule-là? Puisque cette vérité-là, on la prêche déjà maintenant. Où est la foule? Il n'y a pas de foule. Mais attendez, le jour où Jésus ouvrira le robinet, qu'il va y avoir deux ou trois miracles exceptionnels, vous allez voir que la même prédication-là, ça va changer de... Ça s'appelle quoi? D'auditoire. Il va y avoir un auditoire large. Vous croyez que cet auditoire large cherche la vérité ou bien est impressionné par les miracles? Soyons honnêtes. C'est un auditoire qui serait impressionné par les miracles. Mais bon, l'essentiel, c'est qu'ils viennent quand même écouter la vérité. Après, même quand si tu étais venu pour les miracles, au moins que tu te reprennes. Comme Simon a dit, ah, pardonnez-moi, voilà. Et que tu te repennes pour dire, non, je dois m'accrocher à la vérité plutôt. Mais c'est pour nous dire que beaucoup n'ont pas cru au véritable Jésus. Ils ont cru parce qu'ils ont entendu des témoignages d'exploits. Ils viennent, ils s'intéressent à voir qu'est-ce qui se passe. Vous savez, dans les églises, il y a des bonnes choses qui se passent. Il y a parfois des gens qui ont de belles voix. Il y a parfois des prédicateurs talentueux. Il y a des choses qui se passent. Il y a des achats de salles. Il y a des choses qui se passent. Beaucoup viennent parce qu'il y a cette ambiance-là, des choses qui se passent. Aujourd'hui, beaucoup suivent Emmanuel Macron. Mais pourquoi? Parce qu'il est devenu président. Vous croyez que s'il n'était pas devenu président, tous les députés qui sont en train de quitter leur parti d'origine pour le rejoindre l'auraient fait? Ils ne l'auraient pas fait. Ils suivent puisqu'il est maintenant président. Ah ben, on peut avoir un poste plus tard. On s'associe à lui. C'est le cas avec les choses de Dieu. Donc, beaucoup vont suivre au moment où tout semble porter du fruit, réussir. C'est pourquoi pour voilà, véritablement faire confiance aux gens, il faut que ce soit les gens qui ont participé aussi à la, au temps d'épreuves, de souffrances. Pas se reposer sur les gens qui viennent au secours de la victoire. Donc quand vous êtes dans la victoire, c'est là qu'ils viennent. On veut te donner une passe, mais non, mais on a déjà gagné le match. C'est là qu'ils viennent pour donner une passe. Non, il fallait donner les passes avant quand on était mené 4 à 0. Maintenant qu'on mène 10 à 8, 10 à 4, c'est là que vous dites, non, mais je veux vous venir aider. Non, vous venez au secours de la victoire. Jésus a dit dans Luc 22, il a dit à ses apôtres, vous êtes de ceux qui ont participé avec moi dans mes épreuves. Ah oui, c'est quand ça paraissait difficile, vous étiez là. C'est pourquoi je vous ai réservé les trônes au ciel. Les gens vont venir parce qu'il y a des choses qui marchent, qui réussissent. Non, il faut venir pour la vérité. Et Jésus savait ça. Il disait, je ne fais pas confiance. Il savait reconnaître celui qui était de la vérité, qui venait pour la vérité, ou celui qui venait parce que les choses fonctionnaient bien. C'est la vérité qu'il faut suivre. Et le vrai serviteur ne cherche pas le nombre. Il veut que les gens s'attachent à la vérité, parce que c'est la vérité qui sauve. Le faux Jésus ne te sauvera pas. À la fin du monde, Jésus te dira, je ne te connais pas. Tu as cru en un faux Jésus qui faisait des miracles, pour les miracles. Le vrai Jésus est venu donner la vie éternelle par une transformation totale. Il est venu nous réconcilier avec le Papa qui nous a créés. C'est ça le vrai Jésus. Il n'est pas venu amuser les gens avec les miracles. Il fait les miracles pour montrer qu'il est Dieu, qu'il est tout-puissant, qu'il est le Sauveur. Mais il ne fait pas ça pour que ce soit le centre de notre attention. Le centre de notre attention doit être lui-même. Lisons Jean 6 dans le même esprit, 25 à 27. Jean 6, 25 à 27.
Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, ils lui dirent, « Rabbi, quand es-tu venu ici ?» Jésus leur répondit, « en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu lui-même a marqué de son sceau. »
Amen, amen. Ces gens-là sont venus en foule chercher Jésus. Jésus dit, ah, tout ça, c'est pas parce que vous avez compris mes miracles. En fait, les miracles, c'est quoi? Les miracles sont des signes. On les appelle aussi des signes. Ils sont là pour montrer l'origine de la personne qui parle, l'origine de la personne qui fait les choses, qu'on comprenne qui est cette personne et qu'on s'attache à ce que nous apporte cette personne. Qui a déjà été soigné par un diplôme ici, là, de médecin? Tu es très malade, c'est un diplôme. Tu vois le papier diplôme là? Le papier, il se déplace, il commence à te prescrire. Mais non, jamais un diplôme ne peut te soigner. Mais quand tu entres dans un cabinet médical, les médecins ont l'habitude d'afficher leur diplôme. Ça te sécurise. Ah, si le monsieur a ce diplôme-là, c'est qu'il peut me soigner. Donc le but du diplôme, ce n'est pas que le diplôme te soigne. Le but du miracle, ce n'est pas que le miracle te sauve. Le but du miracle est là pour te dire, mon vieux, tu as affaire ici à quelqu'un qui vient du ciel. Humilie-toi. C'est ce qui est dit dans Jean 3. Dans Jean 3, un docteur, donc quelqu'un de grand, de religieux, de juif, il vient voir Jésus la nuit en cachette parce que lui, c'était lui le meilleur de sa religion. Mais il dit à Jésus, je t'ai observé, tu fais des choses, tu fais des miracles qui montrent que tu ne peux venir que de Dieu. Voilà quelqu'un qui a compris les miracles. Il n'est pas venu par distraction pour les miracles. Mais il a compris que si ce monsieur-là fait de telles choses, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Il vient de Dieu. Il a donc des choses à m'expliquer alors sur le ciel. Amen. C'est ce que Jésus veut dire. J'ai fait des miracles. Vous n'avez pas compris qui je suis pour que je vous donne maintenant, vous veniez à moi avec soif afin que je vous donne la vie éternelle. Mais vous venez encore parce que j'ai multiplié les pains. Vous avez mangé. Vous ne pensez qu'à votre ventre. Vous venez parce que vous voulez manger, parce qu'il venait de multiplier les pains. Les gens mangeaient à satiété à tel point qu'il est resté même beaucoup de pain et de poisson. Il a multiplié les pains et le poisson. Les gens se sont dit, ah, on a une boulangerie vivante, donc on va commencer à y aller chaque jour. Jésus a dit, je ne suis pas une boulangerie. Alors non, je parle à tous ceux qui croient en Jésus comme l'hôpital, comme la banque. Comme, voilà. Donc c'est celui qui, quand j'ai des problèmes d'argent, il va me donner. C'est celui qui, quand je suis malade, il va me guérir. C'est celui qui, quand j'ai des problèmes de couple, c'est lui qui va nous calmer. Mais le Jésus utilitaire, là, c'est un faux Jésus. Le vrai Jésus, il veut te transformer à l'image de Dieu lui-même. Est-ce que vous rendez compte de la colère de Jésus? J'ai déjà donné cet exemple-là. Il y a des amis, alors que tu es au chômage, il y a des amis qui font des pieds et des mains, comme on dit, pour te trouver un rendez-vous avec Emmanuel Macron, le président de la République. Et quand toi, tu te retrouves devant Emmanuel Macron, dans son bureau, ou d'où, vous savez que cet homme-là peut te nommer ce qu'il veut. Il suffit d'aller à l'aéroport de Roissy, voir comment c'est grand, et comprendre qui est le président de cet aéroport, le directeur de cet aéroport, son importance. Maintenant, imaginez que le directeur de cet aéroport-là, c'est Emmanuel Macron qui le nomme, sans problème, facilement. Alors, les amis ont tout fait pour que tu rencontres le président, sachant que tu as un doctorat, tu es au chômage, tu peux être utile dans beaucoup de choses. Tu arrives devant le président, tu lui demandes du pain chaud. Le président lui-même va se dire, mais ce type, il blague avec moi. Donc, il vient ici dans mon bureau pour me demander du pain. Il ne sait pas qui il a affaire. Et tes amis, quand ils vont apprendre ça, ils vont t'attraper à la gorge. Hein. Je dis, mais quoi? Tu étais devant tout ce que tu trouves à demander, c'est du pain. Ah, jamais. C'est quoi ça? C'est ça que Jésus ressent quand il voit que tu es devant lui, tout ce qui t'intéresse, c'est ta guérison, c'est ton mariage. Il dit, mais quoi? Moi, je peux faire de toi un citoyen du ciel, quelqu'un qui règne à partir du ciel. Moi, je suis le Fils de Dieu. J'ai reçu tout pouvoir. C'est tout ce que tu me demandes. Vous savez, Jésus, il a vu Nathanaël à distance. Quand Nathanaël s'est rapproché, il a dit, c'est comme si quelqu'un est à Rouen et nous on est ici, mais Jésus le voit quand même, là où il était. Et quand il arrive, Jésus dit, mais je t'ai vu quand tu étais sous les figuiers. Mais Nathanaël dit, mais comment est-ce possible? Tu ne peux être que le Fils de Dieu. Jésus a dit, tu ne te trompes pas, mais tu es étonné juste pour ce petit miracle. Moi, je peux faire plus. Désormais, vous allez voir quoi? Le ciel ouvert. La prophétie de Jacob, la vision de Jacob va s'accomplir, où une échelle va relier le ciel et la terre. L'échelle, c'est qui? C'est le Fils de Dieu. Lui-même, il dit, désormais, vous allez voir le ciel ouvert et moi faire le pont entre les deux. Il voulait dire quoi? Je vous ai amené le ciel, moi, juste parce que je t'ai dit que je t'ai vu de loin, que tu es impressionné, mais il y a plus que ça. Je vous ai amené le ciel. Désormais, le ciel est ouvert et je suis le pont. C'est pourquoi, moi, bien-aimé, moi, la chose que je demande, c'est ça toujours que je demande au Seigneur. Je demande le ciel, je demande le réveil, je demande la gloire parce que c'est ce qu'il est venu apporter au maximum. Je ne peux pas me trouver devant lui pour demander. Je ne dis pas qu'on n'a pas le droit de demander des chaussures, mais secondairement, principalement, je demande la gloire céleste. Il est venu ouvrir le ciel pour nous. Comme on chante, mourir pour nous ouvrir le ciel. Il est mort pour nous ouvrir le ciel. Et toi, tu te retrouves devant lui, tu demandes du pain chaud. Oh là là, Jésus, quand il voyait ça, il était abattu. C'est pourquoi à un moment donné, il a dit, race d'incrédules, jusqu'à quand je serai avec vous? Vous n'avez pas compris ce que moi je peux vous donner. Bien-aimés, demandons ce que le ciel soit ouvert sur nous. Demandons ça, on n'est pas les premiers à demander, Moïse aussi a demandé ça, je veux voir ta gloire. Il y a des gens qui ont compris que mais si je suis en face de Dieu, je vais demander juste des biscuits. Mais non, je veux demander la gloire. Je veux demander ma transformation totale à l'image de Christ. C'est ce que je veux demander. Je veux demander le maximum. Nous passons à Jean 18, 25 à 27. Jean 18, 25 à 27. On raccourcit les passages parce que normalement, ce serait intéressant de lire toute l'histoire. Mais nous raccourcissons les passages puisqu'on n'a pas beaucoup de temps. Mais comprenons l'idée que nous sommes en train de communiquer. Mais c'est celle de croire au véritable Jésus, Fils de Dieu Tout-Puissant. Vous savez, j'ai encore une anecdote dans Jean chapitre 9. Dans Jean chapitre 9, qu'est-ce qui se passe? Un aveugle qui était... aveugle né. Il est né aveugle. Cet homme-là passait son temps à faire quoi? À mendier. Et Jésus passait par là. Jésus lui redonne la vue. Alors, les gens sont venus le voir pour lui dire, mais c'est qui? Il a dit, mais c'est un homme, Jésus, qui m'a redonné la vue. Mais les gens disent, les religieux de cette époque-là ont dit, mais ce n'est pas possible. Si c'était un homme de Dieu, comment il peut faire ce miracle le jour du sabbat? C'est interdit de faire ce genre de choses le jour du sabbat. Or, ce n'est écrit nulle part que c'est interdit. C'est eux, dans leur logique, qui ont fait déjà un interdit. C'est écrit qu'il ne fallait pas travailler. Mais là, c'était servir Dieu. Ne pas travailler pour soi-même, mais travailler pour Dieu, ce n'était pas interdit par Dieu. Parce qu'ailleurs, il dit, mais les sacrificateurs travaillent pourtant le jour du sabbat. Les gens qui travaillent pour Dieu, ils font des sacrifices pour Dieu le jour du sabbat. Donc, travailler pour Dieu, ce n'était pas interdit. Mais eux, ils ont manipulé les choses pour faire passer Jésus comme celui qui enfreint le sabbat. Et cet homme dit, mes amis, on n'a jamais entendu que quelqu'un qui était né aveugle puisse voir par un miracle. Ça n'existe pas. Ce monsieur est le seul à l'avoir fait. Vous voulez que moi je dise que c'est un pécheur? C'est faux. Il vient de Dieu. Ah, mais tu es fou! Il dit, mais non. Ce que moi je sais, c'est que j'étais aveugle, maintenant je vois. Vous voyez, bien aimé, c'est ce que j'ai envie de dire à mes amis musulmans. C'est ça. Ben, vous allez suivre, mais comment il peut être Dieu à la fois, Fils? Mais regardez la réalité. Comment quelqu'un peut dire à la tempête, silence, tais-toi? Et vous avez l'habitude de dire, mais les autres prophètes aussi ont fait des miracles. Mais les autres prophètes, quand ils ont fait des miracles, c'est selon l'ordre de Dieu. Ils ont prié pour faire les miracles. Ils demandaient à Dieu. Mais celui-là, il parle à la tempête, il dit silence, tais-toi, comme on parlerait à un animal. Il parle comme Dieu lui-même. Comment quelqu'un peut faire voir un aveugle né? Comprenez à qui vous avez affaire. Il n'a même pas besoin de dire qu'il est Dieu et fils de Dieu. Si tu vois ce qu'il fait, parce que le jour où il a dit silence à la tempête, les gens même qui l'accompagnaient depuis longtemps, ils se sont dit, mais qui est cet homme? Vous voyez, notre question est importante, hein? De quel Jésus tu parles? Parce que les gens là, ils le suivaient depuis un moment. Mais quand il a dit à la tempête, silence, tais-toi, le vent s'est arrêté, les eaux se sont calmées, ces gens-là qui le suivaient depuis un moment, ils se sont dit, mais il est qui? Jusqu'à donner des ordres à la nature qui obéit instantanément, alors qu'il dormait, hein? C'est ce que nous voulons vous dire. Qu'il dorme, c'est ça son humanité. Il ne cache rien. Il dit qu'il est venu en homme, il fallait qu'il vienne en homme pour qu'il puisse prendre notre place. S'il était venu en ange, il ne pouvait pas prendre notre place. Il fallait qu'un homme remplace les autres humains par rapport à la condamnation. Et on ne cache pas ça, on dit qu'il est homme. Mais il est Dieu, il est fils de Dieu et les preuves sont là. Comment tu peux dire à la tempête, silence, tais-toi? Comment tu peux marcher sur l'eau? Est-ce que vous avez déjà vu un seul humain jusqu'à aujourd'hui marcher sur les eaux? Un seul. D'accord, les autres prophètes ont fait des miracles, mais ce n'est pas le même niveau de miracle. C'est pourquoi ce grand docteur-là religieux est venu s'incliner. Lazare, il était mort depuis 4 jours. Jésus l'a ressuscité. 4 jours, même les gens ont dit, mais maître, il doit sentir déjà mauvais, il doit commencer à pourrir. Jésus a dit, enlevez la pierre. Et il a crié, Lazare sort. Lazare est sorti. Alors devant ça, toi tu vas venir seulement demander, ah Seigneur, je veux une belle maison. Au fait, c'est ta prière maximale, une belle maison. Je ne suis pas contre qu'on demande les maisons. D'ailleurs, c'est tellement facile pour lui qu'on doit demander ça. Il n'y a pas de problème. Mais quelle est ta prière principale? Ta prière principale doit être plus que ça. Il faut aller plus loin. Je ne peux pas tout dire sur Jésus, mais le conseil final, c'est quoi? C'est que nous lisions sur Jésus dans l'Évangile. Vois toute sa plénitude qui se manifeste, celui qui peut commander à la tempête. Quand tu sais que c'est à lui que tu as affaire, tu sais que tout est réglé. Tout est réglé. Vous savez, une dame, une chrétienne en Chine, une anglaise, elle s'apprêtait à prendre ses vacances, elle s'en allait pour les vacances, lorsqu'on lui annonce que l'année prochaine, l'État compte réquisitionner leur école pour que ça devienne une école publique. Donc, ils n'auront plus d'école pour faire l'école biblique. Non, ils n'auront plus de bâtiment pour faire l'école biblique. Alors, les gens s'attendaient à quoi? À ce qu'elle annule ses vacances. Hein, comme c'était la mode, c'est la mode encore dans certains endroits, elle annule ses vacances, elle se met en jeûne et en prière pendant 2 mois pour garder le bâtiment. Bien-aimés, les gens n'ont pas compris, puisqu'elle avait aussi l'habitude aussi de jeûner et prier. Donc les gens prennent ça comme des méthodes. Jeûner et prier, ce n'est pas ça la solution, c'est Jésus qui est la solution. Quand le Saint-Esprit nous pousse à jeûner et prier, on va faire. Mais on ne va pas faire ça comme une solution. Quand on lui a dit ça, elle a consulté son Dieu. Le lendemain, elle a pris ses bagages, elle est partie en vacances. Les gens ont dit, mais madame, vous n'avez pas appris ce qu'on a dit? Elle a dit, oh, je sais en qui j'ai cru. Voilà sa réponse. Je sais en qui j'ai cru. Celui qui m'a donné l'école, il me redonnera toujours cette école-là. Et quand elle est revenue de vacances, l'État n'a plus pris ce bâtiment-là. L'école a continué. Bien aimé, c'est ça. Quand on sait à qui on a affaire, ça change tout. C'est ça notre question. Sais-tu à qui tu as affaire? En quel Jésus tu as cru? Ça change tout. Parce que si tu as cru à celui qui a dit à Pierre, va pêcher et tu trouveras 2 pièces d'or dans la bouche du poisson pour payer l'impôt, tu ne vas pas flatter l'argent, les gens, manipuler les gens pour leur demander de l'argent. Tu sais que tu es son serviteur. Il a même, ce qui est plus grave, c'est qu'il a même lui-même dit que l'ouvrier mérite son salaire. Lui-même l'a dit. Donc, il va s'occuper de toi. Et quand tu vois les éléments qu'il présente dans la parole, tu dis, ah non, ce n'est pas la peine de m'inquiéter, il s'occupera de moi. Parce que tout ça est lié à quoi? Au fait de se poser la question, en quel Jésus je crois? C'est ça la question. Et nous vous présenterons le vrai Jésus. Lisons Jean 18, 25 à 27.
Simon-Pierre était là et s'échauffait. On lui dit, « Toi aussi, n'es-tu pas de ses disciples ?» Il le nia et dit, « Je n'en suis point. » Un des serviteurs du souverain sacrificateur, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, dit, « N'étais-je pas vu avec lui dans le jardin ?» Pierre le nia de nouveau et aussitôt le coq chanta.
Et aussitôt le coq chanta, vous connaissez l'histoire du triple reniement de Pierre. Lui qui Lorsqu'on est venu arrêter Jésus, il avait montré la force. Il a même pris un coup, une dague, il a pris une sorte d'épée. Il a coupé l'oreille d'un des serviteurs de l'autorité qui était venu l'arrêter. En fait, il se disait que bon, ça va s'enchaîner la bagarre et puis on va gagner. Oh, curieusement, Jésus ne fait rien. Jésus répare même l'oreille de la personne. Il dit à Pierre, remets ton épée. Jésus lui dit, je dois subir ce que mon Père a prévu pour moi. Jusqu'à ce moment-là, Pierre était dans une fausse compréhension de Jésus. Je ne suis pas en train de dire aussi bien aimé que des lacunes sur ce que Jésus, toutes les lacunes font de nous des faux chrétiens. Je ne suis pas en train de dire ça. Il y a des fois, on est des vrais chrétiens, mais qu'on n'a pas compris vraiment le Seigneur à 100%. Et il faut qu'on aille plus loin. Mais il y a aussi le cas où les gens vraiment ont cru en un faux Jésus. Donc il faut qu'on parle de tout. Voilà, on peut croire dans le vrai Jésus, mais sans l'accepter dans sa totalité. Il faudrait l'accepter dans sa totalité, tel qu'il est. Il est simple, Jésus. Il est ressuscité. Il est vivant. C'est l'agneau de Dieu. C'est ça qui a manqué à Pierre, l'agneau de Dieu. Il n'a pas compris que Jésus se fasse arrêter et qu'il soit crucifié. Pourtant, Jésus lui avait annoncé ça à 3 reprises. Mais Pierre n'acceptait pas ça. On lui a dit ça 3 fois, que je vais subir ça pour le préparer à ce jour-là, qu'il ne renie pas, qu'il ne soit pas choqué, mais il n'a pas accepté. Donc nous parlons aussi aux chrétiens qui n'acceptent pas le cheminement du Seigneur, la croix du Seigneur. Jésus, c'est la croix aussi. L'apôtre Paul a dit, je n'ai pas voulu savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Nous devons comprendre que Jésus a triomphé des forces des ténèbres par sa mort à la croix, par la simplicité, par une apparence de défaite. Et nous ne devons pas chercher à toujours contourner les défaites, contourner les épreuves. Non, ça fait partie de notre processus de victoire. Que les gens te prennent comme perdu, comme ayant échoué, et qu'en réalité, toi, tu es avec ton Dieu, ça fait partie de la croix. Que celui qui veut me suivre, dit Jésus, qu'il porte sa croix et me suive. Parce que je vous montre l'exemple. J'ai porté la croix jusqu'à être crucifié pour vous. Vous allez passer par les mêmes chemins. Mais comment des gens comme Alan Yuan ont fait 22 ans, le Watchman Nee, 20 ans en prison, parce qu'ils avaient compris, sans renier Jésus. Sans renier Jésus. Parce qu'ils avaient compris que Jésus, c'est aussi la croix. De quel Jésus tu parles? Et la croix, ça englobe tout. Vous savez, à la croix, qu'est-ce qu'il a dit? Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Aujourd'hui, pour que toi, tu pardonnes quelqu'un, c'est un problème. Mais en quel Jésus tu as cru? Quel amour pardonner aux gens qui sont en train de te crucifier. Mais combien de chrétiens ne passent-ils pas du temps à juger les autres, à éviter les autres? Ah, l'autre va, un tel va m'embêter, un tel je n'aime pas sa compagnie. Mais en quel Jésus vous avez cru? Jésus qui dit, Père, pardonne aux gens qui sont en train de me frapper. On voit la différence, vous savez, on n'a pas le temps. On voit la différence avec Étienne. Étienne, quand il est lapidé, qu'est-ce qu'il dit? Il dit à Dieu, ne leur retiens pas ce péché. Pourtant, on est en train de lui asséner des coups de pierre. Mais il dit, ne leur retiens pas. Pourquoi? Parce qu'il prenait exemple sur qui? Sur son maître, qui avait dit à ceux qui le au père, par rapport à ceux qui le crucifiaient, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Voilà des gens qui avaient compris à quel Jésus ils avaient cru, des gens plutôt qui avaient, qui s'était converti au véritable Jésus qui a été crucifié. Aujourd'hui, quand on parle de serviteur de Dieu, c'est synonyme d'avoir de grandes maisons et puis de belles voitures. Quand on est invité quelque part, il y en a qui demandent à ce qu'ils soient logés dans une suite et qu'on vienne l'accueillir à l'aéroport dans une limousine. Ce sont des faux serviteurs qui travaillent pour un faux Jésus. Ce n'est pas le vrai Jésus. Le vrai Jésus dit, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. C'est ça le bon berger. Il ne vient pas avec des conditions, je veux ceci, hôtel, 15 étoiles, non, non. Ils viennent donner leur vie. Le véritable Jésus est amour et il veut sauver tout le monde. Il ne fait pas de favoritisme, il aime tout le monde. Si tu as cru en lui, tu dois être comme cela. Nous allons prier, puisqu'il y a un dernier texte, mais bon, on n'a pas beaucoup de temps. Voilà, nous allons prier et nous voulons avant la prière qu'on retienne qu'il faut prendre tout de Jésus. Il faut sortir des faux Jésus. Il faut prendre le véritable Jésus qui est Dieu, fils de Dieu, venu en homme dans le vent, par le ventre de Marie pour être élevé comme un homme, marcher, vivre comme un homme, tout ça dans le but de constituer le sacrifice qui va permettre le salut de l'humanité, le pardon de nos péchés. Et dans tout ça se trouve la vérité sur Jésus. Et c'est ça le résumé, mais quand on lit maintenant, on comprend, on a affaire à celui qui est ressuscité, celui qui dit « Je suis la résurrection et la vie ». Nous n'avons plus peur de rien quand on a affaire à quelqu'un qui dit qu'il est la résurrection et la vie. Et bien aimé, les gens qui disent « Mais oui, mais comment il peut être homme, fils de Dieu et Dieu ?» Mais oui, mais comment quelqu'un peut dire « Je suis la résurrection » ? Un prophète peut dire que « Je suis la résurrection ». De quel droit il pourrait dire? Comment quelqu'un peut dire à un autre, tes péchés sont pardonnés, si ce n'est Dieu lui-même? Comment quelqu'un peut dire, je suis le chemin, la vérité et la vie? Est-ce qu'un humain peut dire, je suis la vérité? C'est en ce Jésus-là qu'il faut croire. Il a montré cela par sa vie de simplicité, d'amour, de gloire. Tout ça est dedans. Il y a un chant en anglais qui dit « Meekness and Majesty ». Là, l'innocence, l'humilité et la gloire en même temps. C'est dans le Maître, c'est dans Jésus. C'est tout cela. Jésus a donné sa vie. Il n'a pas demandé l'argent à qui que ce soit. Parce qu'il voulait un rapport d'amour. C'est ce Jésus-là. Jésus a donné sa vie pour toi. Je vais clôturer avec ça. Il est venu pour toi seul. Même si tu étais seul sur terre, il serait venu pour toi. Tout ce que tu trouves à faire, c'est le servir à 20%, à 10%, à 50%. Ce n'est pas juste. Je te le dis en face. Il mérite que tu le serves à 100%. Parce que lui, il a donné sa vie aussi à 100%. Bien-aimé, nous allons prier, tu vas dire au Seigneur que tu as compris qui il était, maintenant tu veux être avec lui, qu'il te prenne en charge. Prions le Seigneur. Oh Seigneur, nous venons te dire que nous avons compris que tu es le Fils de Dieu, le Sauveur de l'humanité, tu es mort à la croix pour nos péchés. Nous voulons renoncer aujourd'hui au péché sous toutes ses formes. Nous voulons te suivre, mais nous savons que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas. C'est pourquoi nous te demandons ton aide, Seigneur. Et nous savons que c'est possible, parce que tu es la résurrection et la vie. Tu peux nous ressusciter, nous qui étions de pauvres pécheurs. Tu peux nous transformer en serviteurs de vérité et de sainteté. C'est ça notre prière. Nous savons que cela est possible, parce que tu nous as dit que tu es la résurrection et la vie. Merci, Seigneur, de nous prendre en charge et de sauver chaque cœur qui suit cet enseignement. Seigneur, que nous entrions dans une nouvelle vie avec toi, considérant tout ce que tu es et vivant en fonction de cela. À toi la gloire, la louange au siècle des siècles. Amen. Que Dieu nous bénisse.